Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, depuis plusieurs dimanches déjà, comme vous le savez, je fais une impasse sur le commentaire des évangiles ou des épîtres des dimanches, et ceci depuis 2 mois pratiquement, puisque nous méditons la grande vie si riche du roi David, qui a vécu 1000 ans environ avant notre Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture sainte, dans son ensemble, est remplie d'enseignements, Ancien Testament, Nouveau Testament. Bien sûr, comme le dit bien notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile entendu aujourd'hui, c'est en Saint-Luc, avec cette belle parabole du Samaritain, cette introduction sur le Samaritain, mais ce ne sera pas le sujet de ma méditation. Notre Seigneur dit bien, bienheureux êtes-vous, parce que vous, mes auditeurs, dit-il, parce que tout ce que vous voyez, les anciens, l'Ancien Testament, n'ont pas entendu ni vu ce que vous voyez. Ce n'est pas pour dénigrer l'Ancien Testament que notre Seigneur Jésus-Christ dit cela, mais bien sûr, le Nouveau Testament dépasse largement l'Ancien Testament. Mais cependant, l'Ancien Testament prépare notre Seigneur Jésus-Christ, notamment le roi David. Et nous en sommes arrivés à David, donc je résume très rapidement ce que j'ai pu dire dimanche dernier, sur le recensement qu'avait fait David. Donc au fait de sa gloire, David va se poser et vouloir compter tous ses sujets. Il y a à peu près 4 millions de sujets et 1 500 000 soldats capables de guerroyer. David avait été averti de ne pas faire cela, parce que à travers ce comptage minutieux, ça prendra 9 mois et 20 jours, à travers donc ce comptage, David, secrètement, avait de l'orgueil. Et le prophète Gad va lui reprocher de la part de Dieu. Et puisqu'il a péché, une fois de plus, différemment des premières fois, le prophète lui dit « Dieu n'est pas content de ce que tu as fait, mais tu as le choix entre toi, entre 3 sanctions, soit 3 ans de disette, 3 mois de défaite, 3 jours de peste. » Et David a pris le troisième choix, 3 jours de peste. Non pas qu'il préférait 3 jours à 3 ans, ce n'est pas dans ce sens qu'il a compté les choses, mais en priant, il a réfléchi aussi, et il a dit, c'est dans la Sainte Écriture, au livre des Rois, « Je préfère tomber dans la main de Dieu, par la peste, que la main des hommes. » La disette, où il y a des rapines, des famines, etc., des pillages, donc les hommes sont des sauvages, des loups pour l'homme, hein, c'est un adage aussi, ou les défaites, donc tout ce que j'ai remporté aussi, ben, je vais te perdre, non pas seulement une perte matérielle, mais la foi, puisque tous ces peuples conquis, finalement, étaient sujets et se convertissaient au vrai Dieu. Mais tomber dans la main de Dieu, c'est mieux, parce que Dieu est miséricordieux, mais pas l'homme. L'homme est dur pour l'homme, impitoyable, ingrat, sauvage parfois, rebelle, mais Dieu est plein de miséricorde. Et David savait cette miséricorde que Dieu lui avait faite après ses graves péchés. Nous étions rendus là. Quand David avait fait ses premiers péchés, il avait dit, selon la loi de Moïse, qu'il connaissait bien, cet homme doit mourir et il va payer 4 fois. Il va rendre 4 fois ce qu'il a pris. Et au fil du temps, à la fin de sa vie, avant de donner le règne à Salomon, on n'en est pas encore arrivé là, David va connaître des difficultés familiales dans ses fils. Absalom, un des fils de David, avait fait tuer Amon, son frère, après l'inceste avec Tamar. C'est un grave épisode, bien douloureux. dans la vie des enfants de David. Voilà. D'impureté grave. Donc Absalom a fait tuer Amon, son frère. Et David fut irrité de ce crime, évidemment. Voulut infliger une punition sévère contre Absalom, qui s'est enfui pendant 3 ans. David ensuite accepta qu'Absalom revint à la cour. Mais attention, tu reviens à la cour, mais pas devant moi. La cour est grande, il y a des maisons en quantité suffisante, donc tu reviens à la cour, mais jamais en ma présence. Pourquoi ? Parce que Absalom n'avait aucun regret du meurtre commis. Donc on voit la clémence de David, mais aussi la justice de David. Reviens à la cour, mais pas en ma présence. Tu reviendras quand tu auras demandé pardon du crime que tu as commis. Ça durera 2 ans. Donc ça fait déjà 5 ans qu'Absalom est grosso modo mis à l'écart de la cour de David. Et pendant ce temps-là, qu'a fait Absalom ? Il a préparé une grande révolte contre son père. Par hypocrisie, il a feint son repentir et David a cru se repentir. Mais c'était une feinte. C'était une feinte. Ensuite, durant 4 ans, Absalom a travaillé l'opinion publique en sa faveur. Il était démagogue, très populaire, parlait bien. David était âgé, donc moins actif. Absalom, au début de sa carrière, on peut dire, il voulait être roi à la place de David pour renverser son père. Et il va attirer les bonnes grâces d'Achitophel, conseiller du roi. Donc, vous voyez, il monte très haut dans les arcanes du pouvoir. Achitophel était conseiller du roi depuis fort longtemps. Mais il va soudoyer, par hypocrisie, Achitophel. Et David sera mis au courant, in fine, de la trahison de son fils. Et il a vu dans cela le châtiment, dans cet acte de rébellion hypocrite, en soudoyant jusqu'au conseiller du roi, il a vu là le châtiment que Dieu lui avait annoncé pour son adultère avec Bethsabée. Disons ce que Saint Jean Chrysostome dit à ce sujet, sur les sur cette fuite, parce que David va fuir Absalom. Voilà ce que avait dit David. « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura pas de salut devant nous, pour nous devant Absalom. » Il est si fort. Il a si bien mené ses ambitions que je n'aurai pas de salut possible. Donc, hâtons-nous de sortir, de peur qu'il nous survienne, ne s'empare de nous, qu'il ne précipite sur nous la ruine et ne fasse passer la ville au fil de l'épée. Donc voilà ce commentaire de Saint Jean Chrysostome. David fuyait devant son fils parce qu'il avait fui la pureté. Il fuyait devant son fils parce qu'il avait attenté au droit d'une union légitime. Il fuyait devant son fils parce qu'il avait transgressé la loi de Dieu qui dit « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère ». Ce qu'avait fait David en tuant Uri, en prenant Bethsabée, la femme d'Uri. Il avait introduit dans son domaine la brebis d'autrui. Il en avait tué le berger. Et voici que maintenant, un agneau de sa propre maison menaçait son berger de la corne. Il s'était attaqué au foyer d'autrui. Et maintenant, il voyait la guerre s'élever de son propre foyer. Absalom, fils de David, fut un homme sans retenue et perdu de vice. Il ne tenait compte ni de la nature, ni de l'éducation, ni de l'âge, ni de tout ce qui avait précédé. Mais il était tellement dur et cruel, bête féroce plutôt qu'homme, que jetant bas toutes les objections, il insultait aux lois de la nature et remplit tout de désordre et de confusion. En effet, c'était tout bouleversé à la fois. Prescription de la nature, respect de l'opinion, piété envers Dieu, charité, compassion, reconnaissance filiale, respect de la vieillesse. S'il ne voulait pas respecter en David son père, au moins devait-il l'honorer comme un vieillard. Si des cheveux blancs ne lui inspiraient pas de vénération, au moins aurait-il dû en montrer pour son bienfaiteur et à tout le moins ménager un homme qui ne lui avait fait aucun mal. On ne voit jamais dans la vie de David et d'Absalom que David ait été méchant envers son fils, juste, mais pas jamais méchant. Mais la passion du pouvoir bannit de son cœur tout sentiment de retenue et en fit une véritable bête féroce. Donc le tableau d'Absalom n'est vraiment pas reluisant, mes bien chers frères. Et David va se réfugier au jardin des Oliviers. On voit déjà dans cette fuite et ce jardin, David qui anticipe notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas, mes bien chers frères, que David est l'aïeul du Christ. Nous verrons dans plusieurs dimanches l'aïeul du Christ par son fils Nathan. Ce n'est pas par Salomon, c'est par Nathan, un des fils de David. On va dans la généalogie de Saint Joseph. Vous pourrez vous reporter au 8 septembre, c'est bientôt, la généalogie, on voit Nathan, fils de David, etc. Ça aide à comprendre un petit peu cet arbre complexe de l'ascendance de notre Seigneur Jésus-Christ, humainement, bien évidemment. Donc, David va se réfugier au jardin des Oliviers, ayant passé, comme plus tard notre Seigneur Jésus-Christ, le cédron, ravin profond, ordinairement à sec, qui sépare Jérusalem de ce jardin des Oliviers. Et il pleura, comme Jésus-Christ plus tard, au jardin des Oliviers, qui pleura nos péchés le soir du jeudi saint. Il est figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons à ce sujet le commentaire que font deux pères de l'Église, Saint Grégoire le Grand puis Saint Basile. Saint Grégoire le Grand. Si quelqu'un, étant offensé par des paroles injurieuses, appelle à garder la vertu de patience, qu'il se souvienne de David. Lorsque, voyant ses officiers prêts à châtier par les armes Séméi, qu'il a clavé d'outrage, il leur dit « Qu'y a-t-il de commun entre vous et moi, fils de Sarvia ? Laissez-le proférer ses malédictions. C'est le Seigneur, en effet, qui lui a prescrit de maudire David. Qui donc osera lui demander pourquoi il agit ainsi ?» Et un peu après, « Laissez-lui proférer ses malédictions selon l'ordre du Seigneur. Peut-être que Dieu regardera mon affliction et me rendra quelques bienfaits pour cette malédiction que je me subis aujourd'hui. » Réduit à voir son propre fils révolté contre lui, en punition de son crime avec Bethsabée, il s'est remis en mémoire le mal qu'il avait commis. Et il supporte avec calme ce qu'il entend. Il considère ses paroles injurieuses non comme des offenses, mais plutôt comme des secours favorables qui pourront le purifier de son péché et l'obtenir miséricorde. En effet, nous supportons généreusement les injures que nous adressent lorsque nous revenons dans le secret de notre conscience au mal que nous avons commis. Il nous paraît léger d'être atteint par des injures lorsque nous voyons dans notre conduite que nous méritons bien pire. De sorte qu'à bien prendre, nous devrions plutôt rendre grâce des outrages que nous en hériter, puisque par elles, nous avons confiance de pouvoir éviter une peine plus grave au tribunal de Dieu. Quelle leçon pour nous tous! On n'est pas David, c'est entendu. On a tous péché. Et il y a des conséquences dans nos péchés. Comme je l'ai dit une fois dernière, un dimanche précédent, David a expié ici-bas ses fautes. Il est très probable qu'il n'a pas passé au purgatoire. On ne parle pas encore du ciel, évidemment, puisque le ciel sera ouvert à l'ascension, bien évidemment. Mais il n'a plus souffert de ses fautes après sa mort, parce qu'il les a expiées ici-bas, On voit toute l'attitude de David dans les avanies qu'il va souffrir de ses propres enfants, de ses propres fils. Et maintenant, Saint Basile nous dit ceci. David ne répondit rien à ces insultes. L'écho du désert ne répond pas à l'injure par l'injure, comme il arrive généralement dans les discussions entre les hommes. Le roi allait toujours en silence, la tête basse. « J'étais, dira-t-il dans ses psaumes, comme le sourd qui n'entend pas, comme le muet qui ne peut ouvrir la bouche, comme l'homme qui n'a rien à rétorquer. » Mais ce mutisme n'était pas celui du stoïcien qui méprise et l'injure et la promptitude du vulgaire à répondre. Non, c'était celui d'une âme vraiment humble. Quelle différence entre le stoïque qui est plein d'orgueil, qui ne répond pas mais qui attend le moment favorable pour décocher son arme à son adversaire. Vous rappelez ce roman avec la mule du pape qui va attendre 7 ans avant de donner le coup de pied de l'âne. Mais ce n'est pas cela. L'humilité. C'était celui d'une âme vraiment humble, oppressée par le souvenir de ses péchés et qui se jugeait digne du mépris universel. Grande humilité dans ce roi David. J'en arrête là pour aujourd'hui. Comme mes sermons sont enregistrés, vous pourrez écouter les autres les dimanches à venir, si vous le désirez. Et nous verrons dimanche prochain un essai de révolte par un autre fils. Alors quand même, il faut que je finisse avec Absalom, quand même, pour terminer avec ce triste sire que fut Absalom. Parce que Absalom donc ne réussit pas à renverser le pouvoir de David. Et il y a eu un retournement de circonstances avec l'armée de David qui a vu que Absalom se révoltait. Donc finalement, cette armée fidèle à Absalom un certain temps s'est retournée contre Absalom et a poursuivi Absalom, qui a dû s'enfuir. Et la fin d'Absalom nous est racontée dans la Sainte Écriture. Donc Absalom maintenant fuit. C'est le père qui fuyait, maintenant c'est le fils qui fuit le père. Il passa sous les branches trop basses d'un térébinthe. Sa tête fut prise par les branches, tandis que son cheval courait encore. Vous voyez le tableau ? Imaginez. Suspendu entre ciel et terre, ce fut Joab, le chef d'armée. On a déjà vu Joab, avec lequel était Uri autrefois. Donc Joab, ce fut Joab qui le tua, lui plantant dans le cœur 3 javelots. David pleura son fils. Comme c'est beau. Non pas la mort. Bon, la mort du méchant est terrible, c'est entendu, mais on voit que David aimait son fils. Il ne s'est pas réjoui de la mort de son fils. Tout comme autrefois, David ne s'était pas réjoui de la mort du roi Saül. Rappelez-vous, un émissaire était venu au-devant de David en disant « C'est formidable, Saül est tué !» Et David avait dit « Mais tu l'as tué ?»« Oui, je l'ai tué. » En fait, Saül s'était tué lui-même, il s'était suicidé. Et le jeune homme qui avait rapporté le fait avait dit « C'est moi qui l'ai tué, comme un fait de gloire, de victoire personnelle. » C'était un mensonge. Saül s'était tué lui-même. Et David tuera le jeune homme qui dit avoir tué Saül. Pourquoi ? Parce que, dit-il, tu as tué celui qui était oint par le Seigneur. Il avait reçu l'onction royale et tu te réjouis de sa mort. Donc voilà, la grande délicatesse de David dans sa jeunesse et maintenant dans sa vieillesse pour son fils Absalom qui était vraiment odieux avec son père. Mais il a pleuré son fils. Donc retenons de cette révolte d'Absalom la grandeur de David, la magnanimité et l'humilité de David qui poursuivra sa course à présent jusqu'à la fin de sa vie, que nous verrons une prochaine fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.